France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. 10 ans de prison requis par la justice algérienne contre Boualem Sansal. L'audience avait lieu ce matin à Alger. L'écrivain de 80 ans est détenu dans le pays depuis 4 mois. Nos informations dans un instant. Lui est libre. Olivier Grondeau, emprisonné en Iran depuis octobre 2022, a été relâché lundi. On l'a appris ce matin. Nous vous raconterons les conditions de sa libération. Son meilleur ami nous donnera de ses nouvelles. À suivre encore, de l'argent pour des armes. Les banquiers et les industriels de l'armement réunis en ce moment à Bercy. Un nouveau placement financier va être proposé aux Français, tandis que le gouvernement gèle déjà 9 milliards d'euros du budget 2025 pour éviter de creuser un peu plus le déficit. Nous parlerons également de ce gros couac au ministère de l'Éducation nationale. Bonjour Louise Buyens.
Bonjour.
L'impression du livre offert chaque année aux élèves de CM2 annulée en dernière minute.
Alcool, contrefaçon, réseaux sociaux, des ingrédients qui figurent dans la BD et qui ne sont pas adaptés à l'âge des élèves selon le ministère de l'Éducation.
A tout de suite. Nous nous demanderons aussi pourquoi les seniors ou les vieux, comme vous voulez, intéressent de plus en plus les médias. Un tour au jardin avec plus de 20 degrés cet après-midi dans de nombreux départements du pays. Soleil et musique, puisqu'à partir de 13h30, nous serons avec un acteur incontournable de la musique en France, Deezer, deuxième plateforme d'écoute en ligne. Elle espère être enfin rentable cette année dans un marché qui grossit. 01 45 24 7000 pour vos questions à son directeur général. 13h50, c'est la France. Le prix du beurre ne cesse de grimper. Ce sera avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson de très grand trompettiste. Stéphane Belmondo va nous raconter Chet Baker.
J'avais un chouette appartement dans le 18e et il n'avait plus trop envie de rester dans les chambres d'hôtel. On jouait tous les deux d'ailleurs, il sortait sa trompette. Chet est toujours là, de temps en temps je lui parle.
Tout cela au micro de Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il est détenu depuis le mois de novembre en Algérie. L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans, comparaissait donc ce matin devant un tribunal d'Alger poursuivi pour acte terroriste ou subversif, acte visant la sûreté de l'État. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Vous en avez eu la confirmation il y a quelques minutes. Mmh. Le tribunal a demandé contre lui 10 ans de prison.
Oui, c'est le bâtonnier d'Alger, maître Mohamed Baghdadi, qui confirme effectivement à France Inter ses réquisitions. Le procès s'est tenu ce matin devant le tribunal correctionnel de Dar el Beida. Boualem Sansal était seul, sans avocat. Procès expéditif, moins d'une demi-heure d'après la presse algérienne. Très rapide, nous confirme en effet le bâtonnier d'Alger. Un simulacre, dénonce l'avocat de Boualem Sansal, maître François Zimret, qui a accepté de répondre à France Inter.
Rien n'est transparent, rien n'est officiel dans cette procédure depuis le début. Boualem n'a pas accès à ses avocats, nous n'avons pas accès au dossier. C'est pourquoi je dénonce un procès fantôme. Le propre d'une justice, c'est d'être public. C'est aussi, bien sûr, d'être contradictoire, avec des droits de la défense respectés. Et aucune de ces règles fondamentales sans lesquelles il n'y peut y avoir de procès équitable n'a été respectée.
Et François Zimret précise qu'il a saisi les organes compétents du Haut Commissariat des Droits de l'Homme aux Nations Unies d'une plainte contre l'Algérie. Le jugement définitif sera rendu dans une semaine, le 27 mars. Vous l'avez dit, Boualem Sansal est détenu depuis le mois de novembre. Malade, il serait atteint d'un cancer et il est au centre, on le sait, d'un bras de fer diplomatique de plus en plus violent entre la France et l'Algérie.
Merci Simon Le Baron pour ces informations et pour cette première réaction donc sur Inter de l'avocat de Boualem Sansal, François Zimret. Vous l'avez dit Simon, la situation de l'écrivain est au cœur de la crise entre Paris et Alger depuis des mois. Et puis il y a le cas de ces Algériens que la France veut expulser mais que l'Algérie refuse d'accueillir sur son sol, et notamment l'influenceur Doualem, refoulé par Alger en janvier dernier. Il a à nouveau été interpellé ce matin à Montpellier. Ses vidéos contre les opposants algériens lui ont valu une condamnation à de la prison avec sursis. En France, c'était au début du mois. Bonjour Sarah Guibaudeau.
Bonjour.
Le ministère de l'Intérieur va donc à nouveau tenter de l'expulser.
Oui, et sans garantie d'y arriver. En janvier, les autorités françaises avaient mis Boualem Naman, de son vrai nom, dans l'avion, estimant qu'avec ses papiers d'identité algérien, cela ne devait pas poser de problème. Alger oppose alors que l'influenceur est interdit de territoire, mesure réservée normalement au profil terroriste. Paris dénonce un faux prétexte. La procédure a donc été relancée. L'homme de 59 ans placé en centre de rétention où il peut rester jusqu'à 90 jours. Au ministère de l'Intérieur, on observe que l'Algérie reprend une vingtaine de ses ressortissants chaque semaine, mais qu'elle en a refusé 35 depuis l'influenceur Doualem en janvier. Elle a aussi fermé 5 bureaux d'éloignement dans ses consulats en France. On ne sait plus à quelle porte frapper, explique une source proche du dossier. Dans une interview à l'Opinion le mois dernier, le président Tebboune dénonçait de son côté le coup politique qu'aurait voulu faire Bruno Retailleau. Si j'ajoute qu'il reprochait aussi à la France de protéger des criminels algériens en col blanc, allusion à un ancien ministre de l'ère Bouteflika que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a justement refusé d'extrader hier, vous comprenez que ce volet du bras de fer n'est pas terminé non plus.
Explication signée Sarah Guibaudot. Un feu de poubelle, feu volontaire ce matin près de l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, lieu de la prise d'otage en 2015 par Hamedi Coulibaly. La façade latérale de l'établissement a été noircie, aucune inscription, aucune revendication. L'entrée et la stèle qui commémore l'attentat de 2015 sont intactes. Information sur place signée Sarah Mansoura. Les autorités françaises ont gardé le silence 2 jours avant de l'annoncer. Olivier Grondeau, détenu en Iran depuis 2 ans et demi, a donc été libéré en début de semaine. Il est rentré en France lundi soir et Emmanuel Macron l'a annoncé ce matin. Ce fou de voyage à travers le monde avait été arrêté alors qu'il faisait du tourisme dans le sud du pays. Nous serons en ligne dans un instant avec son meilleur ami qui s'est battu pendant des mois pour qu'il revienne. D'abord avec vous Christian Chesneau. Bonjour Christian.
Bonjour.
Que sait-on des conditions de la libération d'Olivier Grondeau ?
Écoutez, il est rentré en France lundi soir à bord d'un Falcon de la République. Sa libération est le fruit d'un intense et discret travail diplomatique en coulisses. Paris considère qu'Olivier Grondeau était un otage d'État, tout comme Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, 2 enseignants accusés d'espionnage et toujours incarcérés à Téhéran. Alors, le pouvoir iranien considère les étrangers ou les binationaux qu'il détient en prison comme une monnaie d'échange dans son bras de fer avec les pays occidentaux. Alors, pourquoi le jeune Français a-t-il été libéré maintenant ? Difficile à dire, tant les décisions de Téhéran sont opaques, parfois contradictoires. Sa libération qui intervient au moment de Nowruz, le nouvel an iranien, est certainement un geste d'apaisement vis-à-vis de la France. Sans doute aussi parce que le maintien en détention d'Olivier Grondeau présentait plus d'inconvénients que d'avantages pour les Iraniens. Depuis plusieurs mois, la France a durci le ton vis-à-vis de Téhéran. Nous ne lèverons aucune sanction tant que nos otages ne seront pas libérés, avait martelé récemment le patron du Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot, à l'Assemblée nationale.
La mobilisation ne faiblira pas pour la libération des 2 autres Français détenus en Iran. Jacques Paris et Cécile Kohler assurent ce matin Emmanuel Macron. Merci Christian Chesneau. Et puis l'agence France Presse nous apprend à l'instant qu'un autre Français qui se trouvait en résidence surveillée en Iran, mais dont on ne connaît pas l'identité, un autre Français a été autorisé à quitter le territoire iranien. Nous sommes donc en ligne maintenant avec Tristan Bultiau. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le meilleur ami d'Olivier Grondeau. Vous étiez venu à France Inter il y a quelques semaines nous faire écouter ce message déchirant dans lequel il révélait son identité, dans lequel il parlait aussi de son histoire, de sa détention pour accélérer sa libération. Il est donc libre maintenant. Comment va-t-il ?
Il va bien, il se repose à l'hôpital comme au retour de chaque otage. Et j'ai pu l'avoir au téléphone il y a quelques instants. Sa voix est claire, ça fait beaucoup de bien. Malheureusement, on est aussi triste pour Cécile et Jacques, puisque Olivier est rentré bien seul. Et on pense beaucoup à eux, à leurs conditions de détention. Et on est aux côtés de leurs proches et de leur famille. Et comme dit le président, la mobilisation ne faiblira pas non plus de notre côté.
Donc il est toujours à l'hôpital depuis lundi soir ?
C'est ça, tout à fait. Et il compte y rester jusqu'à ce que le repos soit suffisant.
Il est affaibli, il est amaigri, il est malade ?
Eh bien, j'ai vu les photos comme vous, je ne l'ai pas encore revu physiquement, je n'ai pas pu le revoir, je lui ai seulement parlé. Moi, je suis rassuré par l'assurance de sa voix. Il ne s'est pas ouvert, hein, c'est quelqu'un d'assez pudique comme moi, mais je suis de toute façon rassuré sur le fait qu'il soit avec ses parents et entre de bonnes mains.
Quand est-ce que vous avez été informé de sa libération ? Ce matin, avec l'annonce d'Emmanuel Macron, un petit peu plus tôt ?
Eh bien, ce matin, en même temps.
Ouais, oui. À 7h. Comment est-ce que vous avez réagi ?
Eh bien, quand on est mobilisé aussi longtemps et aussi complètement sur une durée pareille, c'est sûr que ça, c'est du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, on bascule de monde. Olivier était en Iran encore pour quelques mois, quelques années, on ne savait pas, il fallait tout faire pour se mobiliser. Et là, d'un seul coup, tout, tout se décompresse, c'est un peu irréel. On ne sait pas vraiment ce qu'on ressent sur le coup. Et il se confie que lui aussi, c'était voilà, on partage un petit peu ça. Mais on partage également la détermination pour tout faire. Pour nous, ça sera vraiment terminé que quand Cécile et quand Jacques seront de retour en France.
Vous aviez pu avoir des nouvelles au fil de l'eau depuis ces derniers mois. Est-ce que vous pressentiez que peut-être il y aurait pour lui un dénouement heureux ?
Eh bien non, hein, on est vraiment dans l'expectative chaque nouveau jour, chaque nouvelle semaine, chaque nouveau mois. Il n'y a aucune, on va dire que c'est un peu comme lire les feuilles de thé. On ne sait pas quand ça va arriver et on est réduit à décrypter l'actualité, décrypter entre les lignes de ce que nous dit le Quai d'Orsay et d'un seul coup ça arrive.
Merci en tout cas, on vous souhaite de pouvoir le retrouver très vite et de pouvoir échanger très vite avec lui. Merci Tristan Bultiau d'avoir été en ligne avec nous qui vous êtes battu pendant des mois pour la libération d'Olivier Grondeau, qu'on a donc appris tôt ce matin. C'est un rapprochement qui se voit. Les patrons des grands groupes de défense et des banques françaises sont invités à se parler depuis ce matin. À Paris, ce sont les deux ministres de l'économie, Éric Lombard, et de la défense, Sébastien Lecornu, qui ont envoyé les cartons d'invitation. Enjeu, trouver de l'argent pour fabriquer davantage d'armes, pour se défendre contre une éventuelle menace venue de l'Est. 5 milliards d'euros de fonds nouveaux pour monter en cadence, a estimé Éric Lombard ce matin. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Mathieu, vous êtes au ministère de l'économie à Bercy. Il y a du monde autour de la table.
500 personnes invitées, rassemblement inédit par sa taille, au premier rang des grandes figures comme le directeur général de BPI France ou encore le directeur général adjoint de la banque BNP Paribas. Devant ce parterre de VIP, le ministre de l'économie Éric Lombard insiste sur le besoin d'un soutien général à l'industrie de la défense.
La mobilisation de toutes les composantes de notre secteur financier est décisive pour les temps qui s'annoncent. Et la gravité de la période n'échappe à personne. Le financement public, le financement privé et le financement populaire.
1,7 milliard d'euros d'investissement public pour inciter le privé. Objectif au total atteindre 5 milliards d'euros pour les grandes entreprises de la défense, mais aussi leurs fournisseurs et leurs sous-traitants, la clé d'une production XXL.
Ce matin, Mathieu, le ministre de l'économie a parlé de la création d'un nouveau fonds pour que les Français investissent leur épargne dans la défense. Est-ce que vous en savez plus ?
Oui, si vous voulez investir dans la défense, ce sera possible d'ici la fin de l'année. Il suffira d'aller voir votre banque et demander à flécher vos investissements dans ce fonds géré par BPI France. Minimum de mise 500 euros, pas de maximum, pour constituer un fonds à 450 millions d'euros, avec par exemple une assurance vie ou un plan d'épargne retraite. Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, insiste. Produire des armes, ce n'est pas sale et tout se fera de manière volontaire, avec une grande question.
Comment à un moment donné les Françaises et les Français peuvent, de manière citoyenne, civique, se dire j'ai de l'argent de côté, mais moi j'ai envie à un moment donné de participer à l'aventure souveraineté et à la sécurité du pays.
Donner envie avec l'espoir d'un taux qui pourrait atteindre 10% dans ce fonds selon le directeur général de la BPI France qui le compare avec d'autres initiatives créées dans le passé. Il tempère quand même avec le risque important de ce genre d'investissement.
Mathieu Bonnour, en direct du ministère de l'économie avec les moyens techniques de Johanna Gabrick. Tout cela dans un contexte budgétaire de plus en plus serré. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour à tous.
Bon, on se souvient de la sortie de route de nos finances publiques l'an dernier. Pas question que cela se reproduise pour le gouvernement qui gèle d'ores et déjà 9 milliards d'euros de dépenses prévues dans le budget 2025. Est-ce qu'on sait quels secteurs vont être concernés ?
Eh bien, on sait, Jérôme, que cela concerne les budgets de l'État pour 8 milliards d'euros. Les budgets des différents ministères et puis de la sécurité sociale pour environ 1 milliard, annonce faite hier par la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin devant la commission des finances du Sénat. Il y a eu le quoi qu'il en coûte des temps de crise, on est passé au quoi qu'il arrive face aux aléas, a-t-elle dit devant les sénateurs pour justifier cette décision. La croissance révisée à la baisse, les tensions internationales, le contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, tout cela assombrit les perspectives budgétaires pour tenir l'objectif d'un déficit revenu à 5,4% du PIB fin 2025. Il faut agir en anticipation, explique la ministre, avec donc ces budgets gelés mis en réserve de manière interministériel pour le moment. On ne sait pas quel ministère sera plus touché qu'un autre. Des crédits pas encore complètement rayés de la carte, il faudra que le gouvernement décide ensuite de les annuler pour qu'ils disparaissent véritablement du budget. Mais ce sont bien des milliards que les ministères ne pourront pas utiliser, et cela quelques semaines à peine après la promulgation du projet de loi de finances qui a heurté hier certains parlementaires.
Merci Claire Chaudière. Alors un coup de rabot après des mois de discussion entre députés et sénateurs, c'est une méthode qui pose problème, réagi le sénateur LR de Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, rapporteur du budget 2025.
La question qui est clairement posée, c'est la question finalement du respect du vote du Parlement et de la souveraineté de celui-ci. C'est bien le Parlement, dans des conditions tout à fait extraordinaires, qui a fait ses choix. Donc je nous appelle collectivement à une grande vigilance, mettre en réserve aussi peu de temps après le vote du Parlement et la publication du projet de loi de finances qui remonte au 14 février, c'est-à-dire un mois après, ça rappelle des souvenirs douloureux. Je le dis, c'est une alerte. D'abord, respecter le vote souverain du Parlement. Il n'y a pas d'arbitre suprême à ce stade, c'est-à-dire à peine un mois après la publication du projet de loi de finances.
Le rapporteur du budget 2025, le sénateur Jean-François Husson. Nous parlions du contexte de guerre en Europe. Il y a un instant, guerre en Ukraine, la guerre qui fait rage à nouveau entre Israël et le Hamas. Au moins 500 Palestiniens ont été tués dans des bombardements, selon le mouvement islamiste Hamas, depuis la rupture du cessez-le-feu par Israël ces derniers jours. Et ces frappes donnent lieu depuis quelques minutes maintenant à une réponse du mouvement islamiste. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes en direct de Jérusalem. La branche armée du Hamas affirme avoir visé Tel Aviv avec des roquettes.
Oui, trois roquettes envoyées donc de la bande de Gaza. Une des trois a été interceptée. Les deux autres sont tombées dans des zones inhabitées. Pas de blessés pour le moment et c'est la première attaque en provenance de l'enclave depuis près de 6 mois. Mais c'est la deuxième fois en moins de 24 heures que les sirènes d'alerte retentissent en Israël avec ce missile envoyé cette nuit du Yémen puis intercepté et qui visait, selon les Houthis, à l'aéroport Ben Gourion. La branche armée du Hamas revendique, vous l'avez dit, cette attaque sur Tel Aviv en réponse, dit l'organisation islamiste, au massacre contre des civils à Gaza. Et le Hamas prouve donc, si on en doutait, qu'il a encore les moyens, après 17 mois de combat, interrompu évidemment par quelques semaines de cessez-le-feu, de menacer Israël. Plus de 48 heures après les premiers bombardements de l'État hébreu sur Gaza depuis plus de 2 mois, l'armée israélienne opère désormais au sol, le Hamas se défend et la trêve semble bel et bien définitivement enterrée.
Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. Situation internationale extrêmement tendue, donc au moment où la planète sport, elle, est réunie en Grèce pour élire le nouveau patron du sport mondial, le président du comité international olympique, puisque l'Allemand Thomas Bach quitte son poste. Son nom sera connu cet après-midi, après l'élection. Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Vous suivez ce scrutin en Grèce. Emma, l'ombre des États-Unis de Trump plane sur le vote.
Oui, parce que si je vous demande, Jérôme, quelles sont les deux plus grandes compétitions sportives au monde, vous me répondez les Jeux Olympiques et le Mondial de football. Eh bien, les deux prochaines éditions se dérouleront aux États-Unis. La Coupe du Monde en 2026, les JO en 2028 à Los Angeles. Alors, si Thomas Bach, l'actuel président du CIO, n'était pas meilleur ami avec Donald Trump, son successeur va bien devoir composer avec le président américain. D'autant que Trump est un passionné de sport. Il n'a donc pas l'intention de déléguer ce sujet majeur. Un exemple, ce décret signé dès son investissement pour interdire les compétitions sportives féminines aux transgenres. Question qui est au cœur de l'élection d'aujourd'hui, qui sera la prérogative du futur président du CIO. Sauf que Trump menace déjà de ne pas accorder de visa pour les transgenres olympiens en 2028 à Los Angeles, outrepassant donc par anticipation les pouvoirs de l'instance en théorie suprême du sport mondial. Autre sujet sensible qui attend le futur président du CIO, la réintégration ou non des athlètes russes et biélorusses bannis l'été dernier à Paris. Or, si le prochain pays hôte des JO est proche de la Russie de Poutine, il deviendra difficile de camper sur cette position. Avant même le scrutin de ce soir, Trump a donc déjà posé les bases de son influence. D'ailleurs, les quatre favoris, dont le français David Lapartien, ont fait part de leur intention de se rendre à Washington en cas de victoire.
Un résultat des courses ce soir, hein, Emma Sarango, en Grèce. On vous les détaillera donc dans nos éditions de la soirée. Merci pour ces explications en direct de Grèce avec les moyens techniques de Benjamin Thuot.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Ils ont vécu la même histoire, mais dans des établissements scolaires différents, partout en France. 8 collectifs de victimes de violences et d'agressions sexuelles dans des établissements privés catholiques étaient reçus ce matin à l'Assemblée nationale par la commission d'enquête parlementaire. Commission qui cherche à comprendre si l'État a bien exercé son devoir de contrôle sur les écoles où ces violences ont été commises. On parle notamment de Notre-Dame de Bétarame dans le Béarn, à l'origine de la révélation de ces affaires. Bonjour Faustine Calmel.
Bonjour.
Vous avez suivi ces auditions ce matin et vous avez été frappé par ce que décrivent ces victimes, un véritable système.
Que ce soit dans le Béarn, en région parisienne, dans le Finistère, ces trois femmes et ces cinq hommes qui représentent les collectifs racontent les violences utilisées pour dresser, redresser, faire rentrer dans le rang. Certains collectifs se sont créés. Hier seulement, c'est Betaram qui a effectivement soulevé le couvercle de plomb qui pesait Didier Vincent, ancien élève de Saint-Pierre-du-Rélec-Carillon près de Brest.
Les témoignages remontent, j'irais même refluent, comme dans des égouts longtemps bouchés. C'est une méthode qui était la pédoplégie, c'est-à-dire la pédagogie par les coups.
Et pourtant, cela était tellement, tellement utilisé. Ce raz-de-marée de témoignages ne reflètera jamais la réalité, se désole Elvine Lebris. Elle a été scolarisée aux filles du Bon Pasteur à Angers.
Il y a des milliers et des milliers de filles qui n'ont jamais rien dit et qui sont dans la nature et qu'on ne verra jamais parce qu'elles sont comme nous au départ. Trop honte, trop humilié.
Des vies entières brisées jusqu'à aujourd'hui. Et les mêmes mots de silence, d'omerta qui reviennent. C'était le cas hier comme aujourd'hui, dénonce Gilles Parent du collectif des victimes du collège Saint-François-Xavier d'Ustaritz au Pays Basque.
À cette époque, tout le monde savait. Tout le monde savait au minimum qu'il y avait de la violence physique dans ces établissements. Et tout le monde a laissé faire. C'est inadmissible. Si on avait ordonné des enquêtes, on aurait certainement découvert qu'en plus des violences physiques, il y avait aussi des violences sexuelles. J'ai honte de mon pays.
Alors oui, les défaillances sont nombreuses et quelques préconisations déjà évoquées. Un numéro d'urgence pour les enfants, la création d'un office permanent sur ces questions pour que ces cris ne retombent pas dans l'oubli, conclut une participante.
Faustine Calmel en direct de l'Assemblée nationale avec les moyens techniques de Florent Boujon. Pour les élèves actuels, ceux de CM2, ils sont 800 000. Chaque année, le ministère de l'Éducation nationale offre un livre, un classique de la littérature, mais revisité. L'opération s'intitule « Un livre pour les vacances ». Cette année, l'auteur de bande dessinée, Jules, avait revisité « La Belle et la Bête ». Mais tout a été annulé. À la dernière minute, les livres étaient sur le point d'être imprimés. Louise Buyens, on vous retrouve. Alors, on a entendu ce matin sur Inter la colère du dessinateur. Jules, vous avez pu joindre le ministère. Que dit-il ?
Alors, selon le ministère, la bande dessinée est trop adulte, pas adaptée à des enfants de 10 et 11 ans. On y voit, par exemple, le papa de la princesse Belle qui boit de l'alcool, chante les lacs du Connemara ivre-mort. Il est arrêté pour contrefaçon par la police. On le voit plaqué contre une voiture. Avec un professeur, on peut expliquer ces scènes teintées d'ironie, justifie l'entourage de la ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui précise que cela, eh bien, c'est impossible en pleine vacances scolaires. Sans oublier la présence des réseaux sociaux trop importante, selon le ministère. Il affirme avoir fait remonter toutes ces remarques, des préconisations aussi pour que le dessinateur chante les contenus jugés non pédagogiques. Fin de non-recevoir de Jules. Et voilà, 800 000 exemplaires qui ne seront jamais distribués.
Revirement de dernière minute, est-ce qu'on a une idée de combien ça va coûter ?
Alors, l'argent n'a pas été dépensé puisque les livres n'ont pas été imprimés, affirme Elisabeth Borne ce matin chez nos confrères d'Europe 1. En revanche, on nous confirme que le dessinateur Jules sera bien payé pour son travail. Le ministère ne nous a pas communiqué le montant. Alors, à la place, les élèves auront une réédition de l'Odyssée d'Homère. Quant à la bande dessinée de Jules, elle sortira en librairie pour le grand public en septembre prochain.
Il y aura donc les moyens de lire cet ouvrage, quoi qu'il arrive, pour le public et
tout
pour ses élèves. Merci Louise Buyens. Les acteurs de la culture mobilisés aujourd'hui partout en France. Une vingtaine de manifestations pour protester contre les coupes budgétaires dans plusieurs collectivités locales. Manifestations en cours, par exemple, à Lyon. Une opposante à l'énergie nucléaire peut-elle être membre du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire dans notre pays. C'est une instance indépendante qui vise à garantir l'information sur la sécurité du nucléaire en France. Et la présidente de l'Assemblée nationale vient d'y nommer une ancienne ministre, mais pas n'importe laquelle. Elle est aujourd'hui députée écologiste, Dominique Voynet. Et cette nomination, Claire Flochel, subit un véritable tir de barrage.
Sa nomination déclenche en effet la colère et l'incompréhension de plusieurs élus macronistes et de droite, comme Antoine Armand, député Ensemble pour la République et ancien ministre de l'Économie.
Madame Voynet assume depuis 30 ans vouloir saborder la filière nucléaire, a dit qu'elle aurait aimé tuer la filière nucléaire. Nous avons eu l'occasion de l'auditionner. J'ai été le rapporteur de la commission d'enquête qui l'a auditionné en 2023. Elle y a tenu des propos approximatifs, voire inexacts, confondant même des matériaux nucléaires. Et donc, ce n'est ni l'expertise, ni l'expérience qui ne peuvent justifier une telle nomination.
C'est la raison pour laquelle Antoine Armand a écrit à Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, pour protester contre cette nomination. Pour l'instant, Dominique Voynet ne s'est pas exprimé, mais dans son groupe, on ne comprend pas la polémique. Une polémique absurde, estime le député Génération Benjamin Lucas. On est sur un comité de transparence, elle n'est pas ministre de l'énergie et ne va pas définir la politique énergétique de la France, déclare-t-il. En effet, le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance purement consultative, sans pouvoir d'action. Le comité compte dans ses rangs une diversité d'acteurs, dont des associations environnementales réputées opposées au développement du nucléaire en France, comme Greenpeace ou France Nature Environnement.
Explication Claire Flochel. Ce sont eux qui regardent le plus la télévision, qui écoutent le plus la radio, qui sont davantage abonnés aux journaux que les autres générations, les seniors. Allez, les plus de 50 ans, voire les plus de 60 ans. Désormais, ce sont les nouveaux médias qui s'intéressent à ces générations. Bonjour Margot Kefelec.
Bonjour.
Dernière preuve en date, le lancement aujourd'hui sur YouTube d'une chaîne baptisée Télévioc.
Oui, leur mantra, c'est une télé qui s'adresse aux vieux et vieilles qui ont envie et sont fiers de vieillir.
Télévioc, vous pouvez compter sur nous parce qu'on va être super turbulents pour vous étonner, pour vous épater avant de mourir bientôt.
Lancé par le militant Francis Carrier et la journaliste Laure Adler.
Qu'on vient d'entendre.
Tout à fait. Télévioc n'est pas le premier média créé pour et par les vieux. C'est une véritable tendance depuis un an. Alors pourquoi ? Eh bien notamment parce qu'ils ont un pouvoir économique important, explique Virginie Spies, maître de conférence à l'Université d'Avignon.
C'est une cible qui est intéressante hein, pour le marché publicitaire, car les personnes plus âgées, les seniors comme on les appelle, ont des moyens pour consommer aussi.
Ce qui explique le foisonnement de l'offre média pour les seniors, notamment, on l'a dit, sur YouTube, pour coller à leur nouvelle manière de consommer de l'information.
Tout le monde aujourd'hui a un smartphone et les plus âgés regardent YouTube sur leur écran de télé, mais ils regardent YouTube quand même.
Et dans les kiosques, les seniors restent aussi des lecteurs fidèles. Le dernier numéro de Vieux, créé par Antoine Decaune, s'est vendu à 90 000 exemplaires et compte déjà 8 000 abonnés un an après son lancement.
Donc ça marche plutôt bien. Merci Margot Kefelec. C'est une page qui se tourne dans la gastronomie française. Le restaurant du grand chef Georges Blanc à Vona, dans l'Ain, va perdre, au cœur de la Bresse, hein, va perdre sa troisième étoile au Michelin. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le directeur du guide Michelin, Gwendal Poulnek. Le guide sera dévoilé dans 10 jours. Georges Blanc, 82 ans aujourd'hui, avait ses 3 étoiles depuis 1981. Mais c'est le descendant d'une très grande famille de la restauration française. 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac. Attention au vent, hein, toujours dans le sud, région toulousaine. On va vous détailler tout cela avec Élodie dans quelques minutes. Puis à partir de 13h30, le directeur général de Deezer avec nous, Alexis Lanternier. On parle des tendances de la musique que vous écoutez, des morceaux générés par l'intelligence artificielle qui sont de plus en plus nombreux. Et vous, comment écoutez-vous la musique ? Appelez-nous 01 45 24 7000. 13h45, d'où viennent les fleurs que vous achetez ? C'est notre feuilleton et nous sommes dans Lyon aujourd'hui. 13h50, c'est la France et c'est une chanson Marie-Luce Ribaud et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Marie-Luce, le beurre à l'honneur avec vous.
Oui, parce que même si la sacro-sainte tartine du petit déjeuner perd du terrain, on demeure les premiers consommateurs de beurre dans le monde. Alors, quand le coup de la motte s'emballe comme c'est le cas, ben c'est tout le pays qui tremble.
Et avec vous, Frédéric, un trompettiste, deux trompettistes.
Alors, un trompettiste, Stéphane Belmondo, trompettiste de jazz, oui, qui est cette semaine en concert au Sunset à Paris et qui nous fera écouter un autre trompettiste, voilà, de jazz, trompettiste et chanteur, Chet Baker, qu'il a bien connu les dernières années de sa vie.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Grâce à Daniel Moquet, le voisin a enfin refait ses extérieurs.
Du vendredi 21 au dimanche 23 mars, rendez-vous aux portes ouvertes Daniel Moquet, le spécialiste de vos aménagements extérieurs.
France Inter, partenaire des Nuits de Fourvière, festival international de la métropole de Lyon du 2 juin au 26 juillet. Plus de 140 représentations de théâtre, danse, magie, cirque, cabaret et concerts pour 2 mois de fête. avec notamment Fontaines D.C., Georgia Smith, Kraftwerk, Saint-Levant, Political Mother du chorégraphe Offes Schechter ou encore la nouvelle création de Pomme, Marie et Johan Bourgeois. Les Nuits de Fourvière du 2 juin au 26 juillet, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Utopia. Camping, tente et cabane en pleine nature pour des séjours inoubliables, par tous les temps. À réserver sur utopia.com.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Journée très printanière, mais alors attention, il y a toujours beaucoup de vent dans le sud.
Oui, du vent en effet sur toutes les régions du sud. Alors il souffle fort sur les Pyrénées et le Massif central, 90 km à l'heure. Le vent d'autant un cran au-dessus, il persiste et il se renforce encore ce soir et demain. Vigilance orange pour la Haute-Garonne et le Tarn, valable entre ce soir 21h et demain après-midi. Les rafales peuvent atteindre 100 km à l'heure à Toulouse, jusqu'à 100 à 120 vers Castres, le Lauragais et la Montagne Noire. Il y a des pluies qui persistent vers le Languedoc-Roussillon, en particulier sur le relief. Des nuages débordent aussi vers le sud du Massif central et l'ouest de la Provence. Ailleurs, c'est du soleil, hein, parfois voilé quand même du sud de la Bretagne au sud-ouest. Les températures poursuivent leur hausse, comptez 15 à 18 degrés sous les nuages de la Méditerranée. Là, c'est à peu près conforme aux saisons, aux normales de saison. Par contre, ailleurs, c'est 5 à 6 degrés au-dessus des normales, 18 à 22 degrés attendus. Les 20 degrés gagnent la moitié nord, à Paris, Mulhouse, Tours par exemple. Et puis demain, il fera encore très doux. Ça commencera à baisser par l'ouest avec l'arrivée d'un temps très perturbé.
Merci Elodie Calac, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Alexis Lanternier.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de la plateforme française de streaming musical Deezer. Vous avez présenté vos résultats financiers de l'année 2024 il y a quelques jours. C'était en début de semaine. Deezer, pour ceux qui ne connaissent pas, deuxième plateforme pour l'écoute de la musique en ligne en France. 3,5 millions d'abonnés dans notre pays, un peu moins de 10 millions à travers le monde. Alors on va parler de ce qu'on écoute en ce moment, de ce qui marche, de l'argent que vous reversez aux artistes, aussi de la création de l'intelligence artificielle, entre autres, et puis les auditeurs d'Internet peuvent ajouter leurs sujets, leurs questions. 01 45 24 7000 pour vos questions. Vous passez également via l'application France Inter. Alexis Lanternier, d'abord pour tous ceux qui ne connaissent pas Deezer, comment ça fonctionne? C'est via une application? C'est via un site internet? Est-ce qu'il faut être abonné ou pas?
Alors Deezer, c'est un site internet et une application.
Les deux.
Vous pouvez être abonné ou pas.
Ou pas.
Et le plus important, c'est que c'est l'ensemble de la musique du monde.
Combien de titres disponibles?
Un peu plus de 100 millions.
100 millions de titres. Si je suis pas abonné, j'ai quoi? J'ai de la pub de temps en temps, c'est ça, entre les morceaux?
Exactement.
C'est comme ça que ça marche?
Exactement.
C'est tous les... C'est combien on peut écouter de morceaux avant qu'il y ait de la pub?
Toutes les trois chansons, et puis il y a un petit peu moins de flexibilité, on n'a pas le bénéfice du mode hors ligne, on peut choisir un petit peu moins de chansons, donc c'est vrai que toutes les meilleures innovations pour l'écoute de la musique, c'est pour les abonnés premium.
100 millions de titres, ils s'en rajoutent chaque jour, mais comment ça se passe? Enfin, vous les choisissez, ça tombe obligatoirement, automatiquement dans le catalogue. Comment ça marche?
Alors, c'est évidemment la force du digital, hein, c'est des plateformes. Il y a possibilité à tous les artistes de mettre en ligne leur musique qui vont automatiquement être distribuées sur notre plateforme. Alors, on a quelques filtres. Hein. On va s'assurer notamment depuis quelques temps que les musiques 100% générées par IA ne sont pas incluses dans nos recommandations, par exemple. Donc, on va faire attention à ça pour s'assurer que les rémunérations des vrais artistes sont préservées.
Combien touche un artiste quand j'écoute un titre?
Alors, on ne le calcule pas comme ça, malheureusement. Alors, la façon, enfin, malheureusement ou pas d'ailleurs, l'abonnement, on met ensemble tous les abonnements et on distribue les abonnements en fonction du nombre d'écoutes.
Vous distribuez les abonnements en fonction du nombre
donc
d'écoutes?
Donc, on récupère votre abonnement.
Okay.
Et en fonction de ce que vous allez écouter, on va distribuer une part de votre abonnement à un artiste. Donc si vous écoutez
disons que j'ai payé 30...
10 fois plus qu'un autre, okay, l'artiste sera moins rémunéré de votre écoute.
J'ai payé 30 euros, j'ai n'importe voilà, quoi, pour un mois. J'ai un tiers de mes écoutes, c'est, je ne sais pas, Gims, par exemple, voilà, au hasard. Donc Gims, il va toucher 10 euros, grâce à moi. C'est un peu, c'est un peu
moins
ça l'idée.
Une petite commission que Deezer va prendre pour vivre. Et après, ça va être aller au label de Gims, donc aux ayants droit de Maître Gims, et après, ça ira à Maître Gims en fonction des contrats qu'il a avec ses ayants droit.
J'estime que j'ai un grand talent, j'ai autoproduit un disque, je joue de la guitare, je chante, comment est-ce que je fais pour être sur Deezer? Est-ce que j'ai pas de maison de disque?
Il y a beaucoup de plateformes, DistroKid en est une, vous mettez vos musiques en ligne sur ces plateformes qui vont automatiquement être sur toutes les plateformes de streaming en ligne.
Mais pas la vôtre?
Incluant Deezer, bien sûr.
Ah, n'importe qui peut arriver sur Deezer?
n'importe qui, il faut faire un petit peu de travail, il faut prendre un abonnement sur une plateforme de distribution qui va ensuite la mettre en ligne sur Deezer.
30 euros, j'ai dit au hasard, c'est combien le coût de l'abonnement ?
99 en premium tout seul, et puis après les abonnements famille, duo, etc. qui permettent d'avoir un abonnement moins cher par personne.
11,99 quand on est tout seul, finalement, c'est ça, hein, voilà. par mois. Est-ce que vous envisagez d'autres types d'abonnements, peut-être un peu plus chers, mais qui offriraient davantage de possibilités pour les utilisateurs ?
Alors là, aujourd'hui, il y a des abonnements plutôt moins chers quand on est étudiant, quand on est à deux, quand on est en famille. La grande priorité pour Deezer, c'est s'assurer qu'on a une expérience d'écoute qui est toujours meilleure. Donc là, on travaille beaucoup sur la personnalisation automatique, mais aussi redonner le contrôle à l'utilisateur pour qu'il puisse un peu modifier l'algorithme. Donc typiquement, c'est le produit Flow qu'on a sur Deezer, qui permet, en fonction de votre genre que vous voulez écouter, votre humeur du moment, si vous voulez plus de favoris, moins de favoris, de définir ce que vous voulez. Et ça, on va essayer vraiment d'améliorer, de continuer à améliorer ce type d'algorithme où l'utilisateur garde le contrôle. L'autre chose sur laquelle on travaille, c'est les relations avec les artistes, c'est de connecter avec les artistes. Et c'est là où, potentiellement, ça pourrait devenir plus coûteux pour avoir des expériences exclusives.
C'est quoi des expériences exclusives ?
Des expériences exclusives, c'est par exemple...
Taylor Swift vient en France, grâce à Deezer, je la rencontre.
Voilà, et puis je vais avoir une expérience plus VIP, plus proche. Là, hier, par exemple, ce qu'on a fait, seulement pour nos abonnés premium, c'était un concert avec Charlotte Cardin, privé, en petit comité. Et ça, c'était gagné. Alors, c'était sur concours, c'était pas payé en plus, mais c'est sur concours pour nos abonnés premium.
Quand vous dites personnalisation, Alexis Lanternier, par exemple, j'écoute ce matin un titre d'Eddie Mitchell, je dis n'importe quoi, vous allez me proposer d'autres choses d'Eddie Mitchell ou alors des artistes approchants, c'est ça l'idée ?
Ouais, alors c'est un algorithme très compliqué, hein, ça fait 15 ans que Deezer le peaufine. On va voir ce que vous écoutez, on va voir ce que d'autres personnes écoutent qui semblent être hors des comportements similaires aux vôtres. Et basé là-dessus, on va vous proposer des nouveautés qui vont être pertinentes pour vous.
Alors, le marché de la musique ne cesse de regrossir en France, puisqu'il s'était effondré, on s'en souvient, au début des années 2000 jusqu'en 2007. Il a franchi la barre du milliard d'euros l'an dernier. C'est une première donc depuis 2007. Comment est-ce que vous expliquez ce redressement, finalement ?
Je pense que c'est un peu de ce dont on parle. Hein. C'est la possibilité pour 11,99 d'avoir accès à l'ensemble du catalogue mondial de la musique sans aucune limite d'écoute, avec des algorithmes personnalisés qui permettent de découvrir des nouvelles chansons qui nous sont pertinentes. Donc ça, c'est vraiment ça qui a drivé la croissance du streaming.
Ça veut dire que les gens sont prêts à payer aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, ils se disaient « bon, je vais sur YouTube, je mets la musique et puis c'est bon, et j'ai de la musique comme ça, et gratuitement ».
Je pense que c'est l'amélioration des recommandations, des outils hors ligne, en ligne, la possibilité d'avoir sur l'application, notamment toujours avec soi la musique. Toutes ces améliorations qu'on a apportées au fil du temps ont fait augmenter la part du streaming très clairement.
Vous visez une hausse de vos utilisateurs chez les plus de 50 ans, c'est l'un des axes de travail. Quel est l'âge moyen, j'ai envie de dire, d'un utilisateur de Deezer ou d'une plateforme de streaming musical ?
Donc, l'âge moyen est un tout petit peu plus jeune que l'âge moyen français. Ouais. On a 40% des gens qui streament sur la plateforme qui vont avoir moins de 35 ans. Voilà. Mais globalement, on a une pénétration qui est encore relativement faible. On a un quart seulement des Français qui sont abonnés à une plateforme de streaming. Donc, il y a un potentiel de croissance sur tous les segments d'âge, même si c'est vrai qu'il y a une plus forte pénétration auprès des jeunes.
Et comment vous faites pour essayer de convaincre les quadras, les quinquas, les sexagénaires et les autres
Alors nous, on a plusieurs spécificités.
Qu'est-ce qu'ils feraient ? Ils ne connaissent pas ? Ils n'ont pas l'habitude ?
Je pense qu'il y a un lien entre le digital et le physique. Et c'est vrai que nous, on essaye, comme je vous le disais, de créer des éléments, des événements, de supporter les festivals, de créer des concerts privés où on peut aller. Donc, ce n'est pas uniquement en digital. Je pense que ça, c'est un premier élément. L'autre élément, c'est le support des artistes. Nous, depuis longtemps, Deezer est engagé pour la juste rémunération des artistes parce que c'est quelque chose dans l'univers collectif qui existe, qui est que le streaming rémunère mal les artistes. Et donc, Deezer, un, s'est engagé pour la juste rémunération en changeant le modèle de rémunération et deux, contre la fraude au stream, qui était un problème significatif sur lequel Deezer lutte beaucoup pour maximiser la rémunération des artistes.
Alors, comment vous écoutez la musique ? Un quart des Français utilisent le streaming musical, c'est ce que vous venez de nous dire.
Abonné, ouais.
Alexis Lanternier, c'est votre cas, Marie. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Lyon, Marie. Comment est-ce que vous écoutez la musique ?
Alors, moi, je suis abonnée à Deezer, justement.
D'accord.
Et ce qui m'a permis de découvrir de jeunes artistes français, comme par exemple, je cite, que je l'aime beaucoup, Charlie Motto. Et, Et donc, voilà, grâce aux playlists, en fait, de Deezer. Et je voulais savoir comment les artistes sont intégrés, les chansons, les titres sont intégrés dans les playlists qui sont proposées par Deezer. Voilà, c'était ma question.
Merci Marie. Est-ce qu'il y a des programmateurs musicaux comme il y en a d'excellente qualité à France Inter, Alexis Lanternier?
Merci beaucoup Marie pour votre question et merci d'être client Deezer. Alors, c'est un mix de deux éléments. On a évidemment beaucoup d'algorithmes, comme je racontais, qui permettent d'identifier ce que vous aimez et donc ce qui pourrait être pertinent de mettre dans vos playlists. Et on a aussi une équipe éditoriale d'une trentaine de personnes chez Deezer qui vont constamment discuter avec les labels, revoir ce qui se passe sur le marché et créer des playlists gérées par Deezer qui sont constamment améliorées. Et là-dessus, la technologie nous aide beaucoup à augmenter la capacité de ces éditeurs.
Alors Alexis Lanternier, Deezer a un peu moins de 20 ans, mais n'est toujours pas rentable. Vous avez perdu 26 millions d'euros l'an dernier. Je crois que la rentabilité, vous espérez l'obtenir cette année. Comment est-ce que c'est possible d'avoir une entreprise comme ça aussi longtemps et qu'elle ne génère pas de bénéfices chaque année ?
Alors pour ça, il faut des investisseurs qui croient dans ce marché du streaming et à raison, puisque ce marché du streaming est très significatif et continue à croître. Encore une fois, la part de pénétration du streaming est faible, donc on pense qu'il faut continuer à investir. Ce n'est pas le moment de se mettre à faire beaucoup de bénéfices. On veut continuer à faire du marketing, à expliquer aux gens pourquoi c'est pertinent, à investir dans notre produit pour qu'il soit encore meilleur, que l'écoute musicale soit meilleure, que la qualité audio soit meilleure. Après, petite clarification, on a passé quand même une étape très importante, on dégage de la trésorerie positive. Donc on n'a plus besoin...
Ça c'est la nouveauté de l'an dernier.
De 2024, tout à fait.
Ouais. Mais ça veut dire que vos investisseurs, ils disent on continue à mettre de l'argent, mais on va le récupérer plus tard. Parce qu'il y a un moment, ça va finir
ça
par
veut
gagner
dire
de l'argent.
Non, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de mettre de l'argent. On est en trésorerie positive, c'est-à-dire que chaque année...
Sur la fin d'année dernière.
On a de l'argent qui arrive, pas beaucoup, hein, mais un petit peu, dans les caisses. Donc on n'a plus besoin d'investisseurs qui remettent de l'argent.
Pour la première fois de votre histoire.
Pour la première fois de notre histoire en 2004, on est très contents. Ça vous permet évidemment de regarder le futur avec beaucoup plus de confiance et d'investir sur le long terme.
Alors, qu'écoutent les Français, via Deezer notamment, mais d'autres plateformes de streaming musical, eh bien, pour les artistes francophones.
Mon amour, je vais rentrer tard et trier plus ciel. Fait noir, ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare.
Ça, c'est Gims, Ninao, qui, je crois, a deux titres en tête en ce moment des écoutes, Alexis Lanternier.
Gims, c'est très impressionnant, oui. Beaucoup de titres dans le top 10 très régulièrement. Avec Jules, c'est vrai que c'est les deux artistes qui arrivent à truster le top depuis longtemps.
Ce sont les styles musicaux qu'apprécient particulièrement les utilisateurs français, parce que vous êtes présent dans plusieurs pays, mais en France, c'est une des spécificités ?
Alors, l'urbain en général...
Vous parliez du hip-hop et du rap avec Jules.
L'urbain est clairement, représente à peu près 40% des écoutes, donc c'est significatif. Et l'autre tendance qui est très intéressante dans les écoutes, c'est qu'en fait, la part des artistes français... augmente dans la part des écoutes en France, et donc ça on pense que c'est une très bonne nouvelle.
Les Français écoutent surtout des artistes français, mais ils écoutent aussi ça. APT avec Rosé des Blackpink et puis Bruno Mars, c'est l'exception peut-être à Alexis Lanternier. Oui, c'est vrai qu'on écoute davantage nous de musique française.
Bah, de plus en plus, si vous regardez le top 20 des albums en France,
ouais.
Bah 18 sont des artistes français.
Et ça, c'est une spécificité. Les Espagnols, les Allemands, les Anglais regardent plus peut-être au-delà de leurs frontières que nous, on le fait ?
Non, c'est plus... Alors, il y a évidemment des pourcentages qui changent par pays. Nous, on est beaucoup au Brésil aussi.
Ouais.
Ou alors, c'est encore plus fort. La part de la musique brésilienne est encore plus importante dans le mix. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une spécialité française. Ça dépend des pays. Et puis, surtout, on peut dire que c'est une tendance de fond. C'est-à-dire qu'avec le développement du streaming, de plus en plus d'acteurs, d'artistes locaux arrivent à trouver leur place.
Alors, je ne sais pas si c'est un tube au Brésil, mais en tout cas, ça l'est en France.
Nous sommes les patates, on se balade en 4x4. On mange de la caféine, car on n'a pas envie de finir en purée muesli.
J'ai découvert ce matin le titre Les Patates, qui cartonne manifestement dans les cours d'école et qui a été généré par l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on trouve des titres générés par l'IA sur Deezer, Alexis Lanternier ?
Alors, on peut trouver ce titre, qui est très intéressant, sur Deezer aussi. Après, nous, on considère qu'il faut faire attention à ces musiques 100% générées par IA, notamment parce que la plupart d'entre elles sont générées sur des plateformes qui ne respectent pas le droit d'auteur. et donc, de fait, ne rémunère pas les artistes de façon juste. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on identifie...
Mais où est l'artiste, là? C'est la personne qui a demandé à l'IA, crée-moi les patates? Comment ça se passe?
Alors, c'est probablement comme ça. Donc il y a une partie artiste, mais ça utilise des outils qui, en fait, s'entraînent sur l'ensemble des chansons du monde sans reverser d'argent aux ayants droit. Et ça, c'est quelque chose qui est illégal et qu'on considère illégal. Et donc, on identifie ces chansons et on les sort des recommandations, même si pour l'instant, elles sont encore sur notre plateforme.
Ça veut dire que tous les jours, vous éliminez des titres et des gens chez vous qui font la chasse aux titres, qui les suppriment?
Alors, il y en a 10 000 par jour qui arrivent sur notre plateforme. Donc,
10 000 par jour.
C'est pas des gens qui font ça à la main, c'est évidemment des automatismes. On a développé un nouvel outil qui nous permet d'identifier automatiquement les chansons qui sont 100% générées par IA et donc de les sortir des recommandations.
Mais est-ce que vous dites la musique générée par IA, bah, c'est aussi de la musique, finalement, comme de la musique créée par un humain?
Tout à fait. On peut considérer que c'est de la musique. Et puis, il peut y avoir un artiste qui utilise l'IA, et ça, c'est très bien. Ce qu'on ne veut pas, c'est que les plateformes qui génèrent de la musique par IA, aujourd'hui, ne respectent pas le droit d'auteur. Et donc, on ne veut pas favoriser leur découverte sur Deezer et qu'elle dilue les rémunérations qui devraient aller aux vrais artistes.
Merci Alexis Lanternier d'être venu parler musique aujourd'hui dans ce 13-14, directeur général de la plateforme de streaming Deezer, 13h45 sur Inter. Une semaine dans la vie d'une fleur, nous poursuivons notre voyage. Aujourd'hui, chez l'un des 13 000 fleuristes du pays, et pas n'importe lequel, nous sommes dans le 2e arrondissement de Lyon, près de la place Bellecour, la boutique Bronti, qui est l'une des rares à ne faire que des fleurs françaises et si possible locales. On va faire un détour par l'Allier, je vous préviens. Qui dit fleurs françaises dit forcément un peu moins de choix. Pas de roses, mais la clientèle est au rendez-vous.
Là, on est en train de préparer l'atelier en fleurs séchées. Tous les 15 jours, on fait des ateliers soit couronne, soit bouquet, soit composition piquée. Et les fleurs, on va les chercher au fin fond de l'Allier, dans un petit hameau qui s'appelle, un petit village qui s'appelle Bayet, avec deux productrices, deux sœurs géniales, et qui ont des très très belles fleurs, qui gardent vraiment leur couleur. Enfin, on peut le voir sur les chardons, sur les gonfrénas, c'est les petites fleurs de trèfle. C'est un plaisir d'aller chez elle à chaque fois. C'est un peu loin, 2h30 de route, mais on revient à la voiture pleine de fleurs. Je m'appelle Suzy, je travaille dans la boutique Bronti avec Perrine, Ambre et Caroline. On est toutes les quatre dans cette boutique. Enfin, notre particularité, c'est que voilà, on fait exclusivement de la fleur française.
Vous livrez à domicile, c'est ça?
Exactement. Bah, y a toute une partie qui se fait à vélo. Les livreurs à vélo viennent récupérer les bouquets et les livres dans la foulée.
Donc, il n'y a rien d'autre que des fleurs qui ont poussé en France, ici?
À 95%. Il y a une petite partie, c'est le nord de l'Italie. Et après, ça dépend voilà, des saisons. C'est vrai que là, depuis le mois de novembre, on a de la renoncule, de la giroflée, de l'anémone, de la tulipe. Là, au mois de février, du coup, on a le mimosa. Toutes les semaines, c'est un petit peu les mêmes fleurs, parce que du coup, c'est par rapport à la saison. On le voit, les fleurs sont fraîches quand elles sont bien fermées. Enfin, moi, je le vois. Moi, je vois tout.
C'est-à-dire
je pense, par exemple, mon conjoint, il m'a déjà acheté des fleurs, et les fleurs étaient déjà ouvertes et presque fanées. Mais voilà, il n'a pas la même sensibilité. Et oui, pour moi, elles étaient fanées quand elles sont arrivées à la maison. Après... Tous les clients nous le disent et on a encore eu le cas ce matin. Même si on n'a pas un grand choix de fleurs, les gens sont contents d'acheter du français. Et même l'exemple typique, c'est la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, on n'a pas de rose rouge. Je trouve que oui, c'est vraiment la fête typique où on s'aperçoit que la fleur française, c'est quand même important. Ils préfèrent acheter de la fleur française. Et là, du coup, les prix redescendent un petit peu. Donc, ça fluctue toute l'année.
Donc là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez dans la main?
C'est notre petit tableau récapitulatif de nos abonnements qu'on livre les mardis, les jeudis. Par exemple, du coup, la maison du BTP du Rhône nous commande un bouquet chaque semaine. On sait que c'est un bouquet XL.
Ben, c'est des magasins, il y a des notaires, une infirmerie, restaurant, une banque.
Je dirais que c'est 50% de notre clientèle. C'est vraiment pour les professionnels. les mariages de cet été. Moi, j'adore les préparer. On rencontre le client quelques mois avant, on discute avec eux. Après, j'ai envie de dire aussi pour les enterrements. On fait souvent des dessus de cercueil. On essaye de créer des petits jardins. Nous, on ne fait vraiment pas la forme traditionnelle. Voilà, on a le témoignage de la famille sur cette personne-là et on a envie vraiment de, par la composition de fleurs, montrer la personnalité de la personne. En fait, si c'était quelqu'un de très vif, on va faire un petit peu toutes les couleurs. Une personne très discrète, on va proposer plutôt blanc et rose pastel si c'est pour une dame. Donc je trouve que là on rentre encore plus dans l'intimité quand les gens nous décrivent la personne, quoi.
Feuilleton signé Claire Chaudière, réalisation Claire Destacan. Demain, nous serons dans une ferme florale entre Lyon et Saint-Étienne.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le jeudi à 13h50. Nous parlons gastronomie avec Marie-Luce Ribaud du journal Sud-Ouest. Marie-Luce, vous nous parlez aujourd'hui du prix du beurre. L'inflation est moins forte, mais le beurre coûte de plus en plus cher. Pour quelle raison ?
Parce que le beurre, Jérôme, est de plus en plus prisé à travers le monde. Sans tapage, la demande augmente de l'ordre de 1,5% par an. En Asie du Sud-Est, aux États-Unis, on s'est mis à adorer le beurre, et plus particulièrement les viennoiseries. Résultat, la production ne suit pas la cadence. Mais cet engouement n'explique pas tout. Pour faire du beurre, Jérôme, il faut du lait, et donc des vaches. Or, un virus venu du nord de l'Europe, la fièvre catarrhale, se répand jusqu'en France. Il freine les rendements. Au Travani, nous importons 40% de notre consommation, notamment d'Irlande, des Pays-Bas ou encore de Nouvelle-Zélande. Ces pays ont essuyé des fortes pluies qui ont également contrarié la production. Mis bout à bout, tous ces facteurs provoquent de vives tensions sur le marché du beurre, résume Jean-Marc Chaumet, expert au Centre National Interprofessionnel de l'Économie Laitière.
Donc concrètement, Marie-Luce, notre plaque de beurre va encore augmenter ?
C'est malheureusement probable et ce serait même pour très bientôt. Si vous le voulez bien, faisons d'abord un distinguo entre le beurre vendu aux professionnels et celui destiné au grand public. Pour les premiers, le cours fluctue d'un jour à l'autre et il est passé de 4 000 à 8 200 euros la tonne entre les mois d'octobre 2023 et 2024. Du jamais vu. Pas mal de boulangers, vous l'avez sans doute remarqué, n'ont pu faire autrement qu'augmenter le prix de votre croissant de 10 centimes. Pour le beurre que nous achetons au détail, là, on attend sous peu le verdict des négociations commerciales agricoles. Dans le cadre de la loi Egalim, cette concertation de plusieurs semaines entre les producteurs, l'agro-industrie et les enseignes de supermarchés vise à fixer les prix de certaines denrées pour l'année, dont le beurre. Tout porte à croire que pour les raisons évoquées plus tôt, il coûtera plus cher. Pour rappel, Jérôme, il avait déjà augmenté de 34% pendant l'épisode inflationniste entre 2021 et 2023, c'est dur.
Oui, parce que cet aliment est pour ainsi dire, essentiel.
Avec 8 kilos de beurre par an et par habitant, nous sommes même les premiers consommateurs dans le monde, talonnés par les Danois. C'est dire à quel point ce produit fait partie de notre patrimoine culinaire. Remplacer le beurre et la crème, on n'a pas encore trouvé, asséné Paul Bocuse, visiblement sourd aux sirènes du régime crétois. Maxime Lemeur, 34 ans, est chef de Gemellus à Paris. Le beurre salé coule dans ses veines de Breton. Dans son restaurant qui vise l'étoile Michelin, rendez-vous le 31 mars, l'huile d'olive est anecdotique. En revanche, préparer une viande ou un homard au beurre mousseux, lentement, avec délicatesse et sans excès, est tout ce que j'aime, s'emporte-t-il. Sa Madeleine de Proust est une tartine de beurre salée, celle qu'il dégustait enfant au petit déjeuner.
Maxime Lemeur qui nous propose une recette de beurre blanc, mais rouge. Alors là, il faut nous expliquer.
Oui, et cette sauce, Jérôme, elle est très goûteuse. Elle accompagne aussi bien la viande, le poisson que les crustacés. Faites réduire aux trois quarts 250 g de vin rouge, avec une demi-échalote ciselée et une gousse d'ail en chemise. Ajoutez 100 g de crème liquide et une goutte de vinaigre de xérès pour de la viande ou du jus d'un coquillage si elle est promise à du poisson. Portez à petite ébullition et ajoutez sans peur, sans reproche et sans remords 200 g de beurre demi-sel en petits cubes bien froids tout en maintenant une chaleur constante. Terminez avec un carré de chocolat noir et rectifiez l'assaisonnement. Et pas besoin d'avoir inventé le fil à couper le beurre pour la réussir, cette petite sauce qui va avec tout.
Il y a beaucoup d'expressions dans la langue française avec le mot beurre. On va en parler à Mathieu Avanzi, notre linguiste. Merci Marie-Luce Ribaud en direct de Bordeaux pour cette recette de C'est la France. Ah, c'est une chanson, c'est un trompettiste qu'on retrouve à votre micro, Frédéric Pommier. Il s'agit de Stéphane Belmondo.
Trompettiste internationalement reconnu qui sera en concert demain et après-demain au Sunset à Paris, où il jouera les titres de QR Code 2, l'album qu'il vient d'enregistrer avec le pianiste Thierry Maillard. Et c'est de Chet Baker que Stéphane Belmondo a choisi de parler, un homme qu'il a eu la chance de rencontrer à l'âge de 17 ans. Chet Baker avait entendu parler de lui et un soir, il est venu le voir jouer dans un restaurant parisien.
Je suis dans un endroit qui s'appelle le Palace à l'époque, où il y avait un restaurant qui était un très bon restaurant, mais important, qui s'appelait le Privilège, au sous-sol du Palace. Et donc, le videur de l'endroit, qui était devenu un copain, un ami, me dit « il y a quelqu'un de très étrange qui demande à te voir ». Et puis, je vois l'ombre de Chet, il est toujours habillé en t-shirt avec un vieux par-dessus, ses sandales étaient comme hiver. Et là, je me dis « mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi l'histoire ?» Et Chet donc descend, avait très faim, il me demande s'il peut manger, donc j'ai dit oui, oui, les cuisines sont encore ouvertes, on commence le deuxième set, et puis il est juste assis pile devant moi, et puis entre deux morceaux, il monte sur scène et il me dit « est-ce que je peux jouer avec toi ?» Donc voilà, cette rencontre qui reste un rêve éveillé pour moi, parce que Chet est toujours là. Voilà, quoi, de temps en temps, je lui parle.
Et la rencontre s'est tellement bien passée que dès le lendemain, il vous invite à monter sur scène avec lui.
Oui, le lendemain, au New Morning, endroit mythique qui, j'espère, restera ouvert longtemps. Et il joue deux morceaux, je me souviens, deux chansons, et il raconte notre rencontre, et il me laisse tout seul sur scène. Et à l'oreille, il me dit « Est-ce que tu voudrais bien jouer « Everything Happens to Me » ?»«
I make a date for God and you can bet your life it rains. I try to give a party and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. »
C'est en 1940 qu'a été composé ce standard de jazz, Frédéric.
Standard que Chet Baker a enregistré à la fin des années 50 et qu'il a donc chanté, accompagné par la trompette de Stéphane Belmondo au New Morning, un soir, en 1985. Après quoi, ils ont passé beaucoup de temps ensemble.
En fait, il restait à la maison. J'avais un chouette appartement dans le 18e et il n'avait plus trop envie de rester dans les chambres d'hôtel. Bon, on jouait tous les deux d'ailleurs, il sortait sa trompette et bon, qu'est-ce qu'on joue? On passe du temps donc à discuter toute la journée, toute la nuit, à refaire le monde, à parler de beaucoup de choses d'ailleurs hors musique.
Il était très abîmé à ce moment-là.
Il était très abîmé et des sauts d'humeur, comme malheureusement la drogue n'épargne rien.
C'était l'héroïne.
Oui, c'était l'héroïne évidemment, oui. Donc la drogue la plus dure qu'on puisse aujourd'hui même connaître. Mais avec moi, il a toujours été protecteur, en fait. Quelque part en me disant, ne touche jamais à ça, parce que si tu touches à ça, c'est non-retour. Et puis, on ne sera plus vraiment ni copain, ni ami, ni voilà quoi. Quelque part, il m'a fait peur, donc. Tant mieux pour moi, voilà.
Et vous diriez que vous aviez avec lui un rapport presque filial ?
Ben, c'est un deuxième papa, on va dire, à quelque part, en fait, finalement. Puis oui, j'ai écouté, je devais avoir, je sais pas, à l'âge de 5 ans, j'écoutais Chet déjà. Donc j'ai grandi avec lui jusqu'à ce que je le rencontre. Donc c'était vraiment une grande, grande, grande rencontre pour moi.
Donc cette chanson, elle symbolise vraiment pour vous la première fois que vous avez joué avec Chet Baker et finalement cette rencontre qui a été fondamentale dans votre vie.
Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'ai enregistré sur mon disque à moi il y a quelques années pour Universal, un hommage à M. Baker. I've telegraphed
and phoned. Vous avez conscience d'avoir vécu quelque chose d'exceptionnel avec lui ?
Oui, complètement. Les rencontres, c'est toute ma vie de toute façon. Que ce soit dans la vie privée, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit évidemment dans la musique, je suis très reconnaissant, quoi. J'aurais pu tomber sur mon même musicien. Ça aurait pu, hein. Mais non. Everything
happens to me.
Everything Happens to Me, Chet Baker. C'était donc, Frédéric, le choix du trompettiste Stéphane Belmondo.
Stéphane Belmondo qui sera en concert au Sunset à Paris demain et après-demain soir.
Merci Frédéric et à demain.